Urgence Palestine, les soulèvements de la terre, riposte alimentaire, le collectif des sans-papiers ou encore l'AG féministe Paris-Banlieue, toutes ces associations, en plus d'être d'extrême gauche, ont un point commun. Elles ont toutes été infiltrées par Pauline Condomine, journaliste chez Livre Noir. Mais alors, que cachent-elles ?
Bonjour Pauline, merci d'être sur notre chaîne pour nous raconter ce que tu as vécu pendant 6 mois. Tu es donc journaliste chez Livre Noir et tu as infiltré pendant 6 mois des associations et des collectifs d'extrême gauche. Et donc on va voir un peu comment s'est passée cette expérience, comment est-ce que tu es traumatisée ou est-ce que ça va encore. Et ma première question est, d'où vient cette drôle d'idée d'infiltrer des collectifs d'extrême gauche ?
Alors déjà, merci beaucoup de me recevoir, je suis très heureuse d'être là. Alors cette idée, elle m'est venue l'année dernière, donc en avril 2023, donc je travaillais déjà à Livre Noir en tant que journaliste. Et en fait, il y avait l'association Utopia 56, que vous devez certainement connaître, qui est une association immigrationniste, qui avait décidé d'occuper une école désaffectée dans le 16e arrondissement, l'école Erlanger, avec à peu près 250-300 mineurs non accompagnés, enfin des personnes qu'elle appelait mineurs non accompagnés, qui étaient en réalité des clandestins. Et à ce moment-là, ça avait créé une polémique, en fait, parce que c'était une manière d'attirer l'attention, de faire pression aussi sur les politiques. Et donc, moi, je m'étais posé une question très simple. Je m'étais demandé, est-ce que ces 10 MNA, ces 10 mineurs non accompagnés, sont vraiment mineurs ? Quel est réellement leur profil ? Et je me suis dit que la manière la plus simple de le découvrir, c'était tout simplement de devenir bénévole chez Utopia 56. Et puis en plus, ça tombait bien parce que c'était assez facile en fait. Il fallait juste s'inscrire sur le site, payer une petite cotisation, participer à une réunion un peu d'accueil, de formation. Et ensuite, on pouvait devenir bénévole. Donc j'y suis allée. Et d'une part, j'ai découvert que ces fameux MNA, en fait, n'étaient pas des mineurs non accompagnés. C'était en fait toutes les personnes qui étaient arrivées en France clandestinement, souvent des hommes, d'ailleurs, pour la très grande majorité, qui avaient fait une demande de minorité. Donc, ils avaient demandé à être reconnus mineurs. Ils avaient pour ça fait un entretien. Parce qu'en fait, il faut savoir, quand ils arrivent en France, ils sont logés à l'hôtel. Quand ils se déclarent mineurs, ils sont logés à l'hôtel jusqu'à passer un entretien d'une heure et demie à l'accueil des mineurs non accompagnés. Et ces personnes-là, en l'occurrence, avaient été refusées sur la base de leur déclaration qui n'était pas concordante et sur le fait qu'elles n'avaient pas de papier d'identité, ou alors elles avaient des faux papiers d'identité qu'elles avaient pu acheter, par exemple à Barbès, où on vend des actes de naissance à 10 euros. Et donc, en fait, nous, quand moi, je suis rentrée en tant que bénévole à Utopia 56, on allait récupérer ces personnes-là à la sortie, lorsqu'elles étaient refusées, et on les prenait en charge. Et ensuite, c'est elles qu'on emmenait dans des écoles désaffectées, faire un peu des espèces de happening pour attirer l'attention des politiques, ou alors même on les emmenait manifester. Et à ce titre, en fait, ce qui s'est révélé vraiment intéressant dans cette première infiltration, c'était pas tant le profil des clandestins, enfin, qu'il était quand même, mais c'était la manière dont les bénévoles agissaient, le fonctionnement de l'association et la manière dont les bénévoles exploitaient les clandestins, parce qu'en fait ils les incitaient très fortement et même ils les contraignaient à manifester. Et là, donc, je parle plus des fameux MNA, je parle vraiment de familles avec des clandestins, avec des mères, des bébés et des enfants qui étaient contraintes de rester par exemple toute la nuit devant l'hôtel de ville pour demander des places d'hébergement d'urgence. Il faut savoir que les places d'hébergement d'urgence en France, c'est une compétence de l'État, c'est pas une compétence de la ville ou du département. Mais ils préféraient quand même demander à la mairie de Paris parce qu'ils savaient qu'elle allait céder plus facilement. Et en fait, les familles qui d'habitude étaient aidées à trouver des logements, ces soirs-là, on leur disait non, ce soir, il n'y a pas de logement, ce soir, c'est manifestation. Donc on leur faisait leurs pancartes, on les faisait rester. Moi, j'y étais, j'étais devant l'hôtel de ville avec ces familles. Et il y avait même des familles qui allaient voir les bénévoles en leur disant... est-ce que on peut rentrer, on est fatigué, on a marre, on veut partir. Et les bénévoles disaient non, ce soir, de toute façon, on vous aidera pas à trouver de logement, il faut rester, c'est obligatoire. Et j'étais allée leur demander pourquoi, et ils m'avaient dit sinon la cause n'avancera jamais. Donc c'est toujours la fin justifie les moyens avec ces associations. Et donc là, je me suis rendu compte que c'était vraiment intéressant de passer derrière le rideau, parce que Utopia 56, ils sont quand même régulièrement interviewés dans certains médias, même des médias du service public. Ils disent ce qu'ils ont envie de dire. Ils ont une communication aussi où, par exemple, justement, ils disent que ces familles-là, elles manifestent volontairement de leur plein gré et de leur propre initiative pour demander des places ou pour demander des avancées politiques, alors que ce n'est pas le cas. Et donc, j'ai trouvé ça très intéressant d'aller voir comment ça se passe réellement. Et pour cette troisième édition du magazine, donc j'ai commencé à perpétuer ces infiltrations. Donc ça a commencé il y a à peu près 6 mois. C'était pas évident au premier abord. Évidemment, j'avais fait un peu un plan des différents collectifs dans lesquels je pouvais aller. Mais le plan n'a pas du tout été respecté. Enfin, évidemment, il y a des...
Oui, parce que tu racontes que tu débarques à une réunion. En fait, t'es pas dans le bon collectif, mais tu te dis, bon, bah, j'y vais, tant qu'il y a de la place. Ils ont pas l'air de se douter. Ça fera l'affaire. Parce qu'il y a beaucoup de réunions secrètes, beaucoup de... Tu parles de réseaux sociaux cryptés.
Exactement.
Donc, c'est pas évident d'avoir toutes les infos, en fait.
Tout à fait, c'est pas évident. Et puis même, quand on commence à rentrer dans un collectif, ça peut, de fil en aiguille, nous emmener dans un autre collectif. Mmh. Donc, il faut aussi se laisser un peu emporter, comme un militant assez lambda l'aurait été lui-même. Pour vivre pleinement l'expérience, il faut se laisser emporter. Et c'est là que j'ai découvert aussi une très importante convergence des luttes. Parce que, en rentrant dans un collectif comme les Soulèvements de la Terre, on se retrouve le lendemain dans un autre collectif qui s'appelle Urgence Palestine et qui n'a absolument rien à voir, qui est un collectif... pro Hamas, tandis que je rappelle, les Soulèvements de la Terre, c'est un groupe écolo radical qui avait participé aux affrontements de Sainte-Soline l'année dernière. Donc c'est sûr qu'a priori, il n'y a pas grand-chose à voir. Mmh. Et puis on se rend compte sur le terrain que tout est lié. Exactement, il y a les mêmes personnes, il y a même des personnes qui sont là pour aller un peu dans tous les groupes, pour porter cette convergence des luttes, pour faire le lien. Et donc j'ai commencé petit à petit en faisant des réunions publiques, en participant assez timidement au début à ces groupes pour me familiariser aussi aux personnes qui étaient là, leur idéologie. Et puis finalement, je suis rentrée dans des groupes de plus en plus restreints, dans des groupes de plus en plus confidentiels et j'ai fait plusieurs actions pour vraiment vivre l'expérience. Par exemple, avec Dernière Rénovation, j'ai participé à un blocage de route, donc au blocage du pont de la Concorde devant l'Assemblée nationale. Donc ça, c'était en décembre. Depuis, Dernière Rénovation est devenue Riposte Alimentaire, mais c'est toujours le même principe. C'est un groupe écolo qui fait des blocages de route et qui jette de la soupe sur des œuvres d'art. Donc moi, j'étais là-bas en tant que média activiste. Je devais prendre en vidéo les bloqueurs, donc ça m'arrangeait bien. Ensuite, j'ai fait, par exemple, un week-end de boycott de Carrefour. Donc ça, c'était un partenariat entre... Urgence Palestine et Soulèvement de la Terre, donc partenariat assez étonnant, mais je pense qu'on pourra y revenir. On devait aller dans des carrefours, on devait coller des étiquettes, dégrader les produits alimentaires, scander des slogans à l'intérieur et perturber la clientèle du carrefour. Et je suis même allée aussi, j'ai côtoyé les zadistes de la 69 qui s'opposent à la construction de l'autoroute entre Toulouse et Castres et qui en fait s'auto-appellent des écureuils et qui ont investi les arbres sur le tracé de la 69, ils construisent des cabanes dans ces arbres. Et donc, je suis allée dans ces ZAD avec des arbres occupés, et j'ai même dormi dans un arbre pour voir un peu l'expérience que c'est d'investir un arbre comme un écureuil. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'actions, et aussi dans un collectif de sans-papiers, le collectif 20e arrondissement, tous les mardis soirs, j'allais en tant que bénévole aider les sans-papiers, voir comment fonctionnait ce collectif, et j'ai découvert des choses aussi intéressantes.
Et alors, quelle a été l'expérience, l'infiltration la plus impressionnante que tu aies vue, celle qui t'a le plus fait réfléchir, ou peut-être où tu as eu le plus peur ou...
Je dirais que c'est celle dans le collectif Urgence Palestine. C'était pas évident au premier abord, je m'en doutais pas du tout au début de l'enquête, mais finalement, c'est celle qui représente le plus de pages déjà dans le magazine.
C'est celle que tu as commencé par infiltrer, c'est la première que tu as fait, non ?
En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que j'ai commencé par divers groupes, par exemple les Soulèvements de la Terre, ou alors les collectifs de sans-papiers, et j'ai même fait des groupes féministes radicaux. Il y a un groupe qui s'appelle AG Féministes Paris Banlieue, qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres. Donc j'ai participé à ces réunions, j'ai même vu un homme se faire éjecter de la réunion parce qu'il avait dû se tromper de salle, mais donc on l'a raccompagné à la sortie. Et en fait, à chaque fois, dans ces groupes-là que je viens de citer, il y avait des militants qui me parlaient d'Urgence Palestine, qui disaient « Moi, je suis aussi à Urgence Palestine, on fait aussi des choses avec Urgence Palestine. » Donc moi, je savais pas très bien à quoi m'attendre, mais voilà. Et un jour, il y a une militante d'un collectif de sans-papiers qui m'a dit « Demain, je fais une intervention à Urgence Palestine dans le 20e arrondissement. Je dois parler des liens entre la loi Darmanin et la Palestine. » Et on m'a choisi pour faire cette présentation parce que je suis racisée, mais parce qu'elle était maghrébine, et elle m'a dit mes camarades m'ont choisi parce que je suis racisée. Donc elle était très contente de faire cette présentation, même si elle était un peu stressée, et elle m'a invitée à venir assister à cette présentation. Et j'y suis allée, et c'est vrai qu'au début je m'attendais, alors peut-être à un groupe un petit peu radical, parce que c'est sûr que je me disais pas que ça allait être...
Oui, c'est quand même un sujet ultra controversé.
Exactement.
Et qui clive...
Exactement, et puis on le voit même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui ont des déclarations qui sont quand même très radicales, donc je m'attendais pas forcément à ce que ce soit qu'un collectif de soutien aux civils palestiniens. Mais en fait, ce que j'ai découvert m'a quand même beaucoup marqué, parce que ça allait bien au-delà de ce à quoi je m'attendais. Alors, pour
expliquer... Alors, tu t'attendais à quoi et qu'est-ce que t'as vu, justement?
Alors, je m'attendais, déjà, qu'il y ait un volet soutien aux civils palestiniens et qu'il y ait peut-être une tolérance, en fait, envers les actions du Hamas et même envers le Hamas. Mais en fait, ce que j'ai découvert, c'est que il y avait, la question des civils palestiniens était pas non plus omniprésente, et même la question de la paix n'était même pas abordée. C'est-à-dire que les militants, ils disaient, il y avait une jeune graphiste qui commençait à faire des affiches pour ce collectif, et elle avait mis un symbole de paix dans une affiche. On lui a dit, non, nous, on n'utilise pas de symbole de paix, en fait, c'est pas nous, tout notre but, parce que c'était un groupe qui était vraiment pour l'éradication d'Israël. Okay. Et donc, moi, j'arrive à la première réunion. Et déjà, je suis assez étonnée parce que je vois juste devant moi la députée insoumise de la 15e circonscription.
Qui prône un cessez-le-feu, d'ailleurs.
Tout à fait. Qui s'appelle Danielle Simonet, qui était juste devant moi à la réunion. Et donc là, il y a plusieurs interventions. Donc Myriam, que j'ai rencontrée au collectif de sans-papiers, qui commence par dire « Le 7 octobre, pour moi, comme pour tous les musulmans, ça a été la résistance en action. » Ensuite, il y a un jeune homme d'un groupe qui s'appelle Samidoun qui dit qu'il faut soutenir la résistance sous toutes ses formes. Ensuite, il y a un homme aide-soignant qui dit qu'il faut déconstruire notre vision du terrorisme à Gaza, mais comme en France. Donc aussi en France, il faut remettre en question notre vision du terrorisme parce qu'elle est trop diabolisée. Mmh. Et puis, je vois Danielle Simonet qui finalement prend la parole et qui dit « Je suis pas forcément d'accord avec tout ce que vous avez dit. Moi, je suis quand même pour une solution à deux États. Mais on est quand même tous d'accord pour qu'il y ait un cessez-le-feu. Donc, on manifeste ensemble. » Sauf qu'en fait, les militants ne sont pas pour le cessez-le-feu. Eux, ils sont pour l'éradication d'Israël. Et elle n'a pas spécialement été bien reçue par la suite, donc elle s'est quand même éclipsée assez vite. Et donc oui, c'est un groupe très radical. Et ce qui m'a marqué là-dedans, c'est à la fois cette déconstruction du terrorisme, parce que c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est un sujet qui concerne pas trop la France, toutes ces luttes pour la Palestine, mais en fait ça concerne directement la France, parce que
tu parles dans ton enquête d'une sorte de complotisme antisioniste. Ou en fait, une sorte de discours qui dirait que les attentats en France auraient été fomentés par on ne sait qui, ou potentiellement le sionisme dans son état le plus flou, pour justement attiser la haine contre les musulmans.
Exactement.
Ça, tu l'as vraiment entendu là-bas
De personnes je l'ai même lu dans des messages dont j'ai fait des captures d'écran, où effectivement les attentats sont remis en question, les attentats auraient été presque orchestrés pour attiser la haine des musulmans. Et en fait, c'est vrai que c'est des personnes qui voient le sionisme comme un complot, et elles le disent eux-mêmes, le sionisme, c'est un véritable complot, et les sionistes contrôlent le monde, et les terroristes sont des résistants. Et c'est ça qui est très inquiétant, c'est que quand on dit que les terroristes sont des résistants, quand ils disent que les terroristes sont des résistants, c'est des résistants, certes, à Gaza pour eux, mais aussi en France, parce qu'il y a ce côté martyr. Et un autre point très important à Urgence Palestine, c'était la convergence des luttes que j'ai observée, parce que ça réunissait des militants très, très différents. Donc il y avait notamment un homme fiché S en 2021 pour islamisme qui s'appelle Elias Dimzalen, et qui lui, d'ailleurs, est en partie responsable de la fermeture d'une mosquée en 2017, la mosquée de Torcy, qui était une mosquée pro-djihad, et qui lui est vraiment quelqu'un qui diffuse l'islamisme dans la société. Et en même temps, il y avait des féministes radicales, donc les fameuses féministes dont je parlais, qui organisent des réunions interdites aux hommes cisgenres.
En mixité choisie.
En mixité choisie, exactement. Et en même temps, des marxistes. Et toutes ces personnes-là, en fait, profitent, parce que pour moi, c'est vraiment un prétexte, la lutte pour la Palestine, profite de cette lutte pour la Palestine pour nouer des alliances.
Mmh. Mais est-ce qu'il y a un peu des débats de temps en temps? Parce que j'imagine que de temps en temps, ça doit s'affronter. Il y a des incohérences. Il y a des incohérences dans le discours. Quand il s'agit d'écrire un communiqué de presse, j'imagine que ça doit un peu se tirer de tous les côtés pour ramener un peu à sa cause personnelle.
Alors justement, on a eu un petit épisode fâcheux pendant que j'étais dans ce collectif Urgence Palestine, parce que alors moi j'étais à la fois dans un petit groupe local, et de fil en aiguille j'ai réussi à rentrer dans le groupe national où il y avait vraiment le noyau dur des militants. Et puis en fait le 5 mars 2024, les militants ils préparaient la marche du 8 mars, qui était la marche pour la lutte pour les droits des femmes. Et pendant la réunion, ils ont appris que dans le cortège féministe, il y aurait un groupe qui s'appelle Nous Vivrons et qui dénonce les crimes commis contre les civiles israéliennes par le Hamas lors des attaques du 7 octobre. Et alors moi, je ne connaissais pas ce groupe quand j'étais dans la réunion, et ils l'ont appris vraiment en direct qu'il y aurait ce groupe qui était là. Et c'est vrai que je me dis, pour un militant un peu naïf, il doit y avoir un effet quand même particulier, parce que la manière dont le groupe était présenté, C'était un groupe de génocidaires, de criminels, de terroristes. Oui, mais ça allait très très loin. Ouais. C'est qu'ils les ont présentés, mais comme des abominables personnes, et que leur présence même dans la manifestation était vraiment un affront et une agression. Alors que c'est des personnes qui se contentent quand même de dénoncer les viols et les crimes commis contre les civils israéliens. Eux, leur vraie cause, c'est le fait qu'Israël n'ait pas le droit de se défendre. Et le fait de dénoncer les simples crimes commis contre les civils, c'est inconcevable pour eux. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ce groupe féministe qui est allié avec eux, qui participe à leur réunion, qui s'appelle AG Féministe Paris Banlieue et qui fait des réunions en non-mixité, s'est dit, bon, on va les soutenir parce que c'est un groupe pro-palestinien qui est dans la convergence des luttes. Donc, ils ont dit, on va écrire un texte pour les soutenir. Et ils ont écrit un texte où ils ont dit, on condamne la présence de Nous Vivrons. Mais dans ce même texte, ils ont écrit, on condamne aussi les crimes commis par le Hamas, et notamment les viols, parce que c'est inadmissible, parce que c'est quand même un groupe féministe. Et alors déjà, lors de l'écriture du texte, il y a eu des débats, parce qu'il y en avait qui voulaient pas, il y avait des femmes féministes qui voulaient pas dénoncer ces crimes, qui disaient non, il vaut mieux qu'on s'aligne un peu sur Urgence Palestine, voilà, mais c'est quand même resté. Et donc, dans la section locale d'Urgence Palestine, dans le 20e arrondissement, ce texte a été signé par cette section locale. Et ça a créé un énorme problème parce que le noyau dur des militants à l'échelle nationale leur a dit « Vous avez outrepassé le troisième pilier d'Urgence Palestine » parce qu'il y a cinq piliers chez Urgence Palestine, comme les cinq piliers de l'islam. C'est-à-dire que vous avez... Le troisième pilier, c'est soutenir la résistance sous toutes ses formes. Et donc, condamner les crimes commis par le Hamas, condamner les viols...
C'est remettre en question la résistance.
C'est remettre en question la résistance. Et donc, ces personnes considèrent que le viol est une forme de résistance.
Un moyen comme un autre, ouais.
Voilà, par rapport à l'occupant, au colon, qui est complètement déshumanisé, quoi.
Et alors, pour toi, donc tu parles beaucoup d'Urgence Palestine. Est-ce que si tu devais, dans toutes les associations que tu as vues, juger celle qui pour toi est la plus dangereuse dans ses moyens d'action ou dans son discours, tu dirais Urgence Palestine ou peut-être que les écolos ou le féminisme?
Il y en a plusieurs. Je dirais déjà Urgence Palestine d'une part parce que j'ai vu que ces personnes avaient été violentes. Hein, voilà, bon, je parlais du 8 mars tout à l'heure. Donc il y a des membres d'Urgence Palestine qui ont finalement attaqué le cortège de Nous Vivrons et dont le chef qui s'appelle Omar Al-Soumi. Et c'était une attaque préméditée parce qu'il l'a écrit lui-même dans un compte-rendu qu'il fallait s'opposer physiquement aux sionistes de la manifestation. Et il l'a fait. Et d'ailleurs, c'est ce qui a amené le député de Lyon du Rassemblement national, Julien Odoul, à demander la dissolution d'Urgence Palestine dans une lettre au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Donc c'est un groupe qui est inquiétant et qui est inquiétant aussi parce que c'est un groupe qui va un peu rendre mainstream l'islamisme et le terrorisme. Donc c'est aussi des conséquences à long terme en termes politiques, en termes idéologiques et le fait qu'il soit lié à la France insoumise, qui est quand même un parti très conséquent, est d'autant plus inquiétant. Après, tous les groupes d'extrême gauche en fait que j'ai infiltrés, ils ont un rapport assez particulier à la violence et ils n'ont pas de problème à utiliser la violence, mais en fait, pas forcément directement, mais utiliser des groupes violents, par exemple les antifascistes. Mmh. Donc là, je pense au soulèvement de la Terre. Donc moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec des militants très investis dans les soulèvements de la Terre. Il faut savoir que Gérald Darmanin avait demandé la dissolution des soulèvements de la Terre l'année dernière pour incitation à la violence, justement. Et cette demande
après
avait Sainte-Soline, été...
Tout à fait.
Après Sainte-Soline et les violents affrontements qu'il y avait eu avec les forces de l'ordre. Et la dissolution avait été annulée par le Conseil d'État. Et moi, j'ai parlé aux personnes des soulèvements de leur rapport à la violence dans une réunion avec justement un responsable qui est vraiment investi dans le collectif à l'échelle très, très nationale et qui m'expliquait, bah oui, en fait, on est en lien avec des groupes autonomes, des mouvements autonomes, donc qui viennent de toute l'Europe pour les manifestations. Et évidemment, on organise la violence parce qu'on fait des cortèges. Donc il y a des cortèges avec des thèmes de couleurs et il y a les cortèges pour les personnes qui vont vraiment aller s'affronter avec les forces de l'ordre et les cortèges un peu plus tranquilles pour les familles, etc. Et en fait, ils utilisent cette violence. Et je lui disais, mais ça vous dérange pas voilà, d'être violent contre des policiers, contre des personnes, en fait. Et il me disait, on peut pas vraiment dire que quand on est violent contre des policiers, on est violent contre des gens. C'est pas les gens, les policiers, c'est le système, c'est l'État. Et c'est l'État qui est violent et qui est dangereux. Mmh. Et nous, c'est que de la légitime défense. Et ça, c'est un truc qui est assez commun dans cette extrême gauche. c'est d'attaquer, mais d'attaquer en se victimisant à chaque fois, en disant on attaque, mais c'est parce qu'on se défend. C'est comme l'urgence palestine, c'est vrai que c'est...
Et contre des notions souvent très floues.
Exactement.
L'État, le sionisme.
Exactement.
Le patriarcat, des trucs qu'en fait, ils ont du mal à définir, mais qui justifient tous les moyens.
Mais comme il y a une très forte paranoïa, on peut même se laisser emporter. Enfin, c'est vrai que moi, la réunion où j'étais, où ils parlaient du groupe Nous Vivrons, mais j'avais l'impression que c'était un groupe de terroristes qui était là pour frapper tout le monde. Et ils ont une manière de se présenter en victime qui peut toucher, en fait. Et il y a d'autres choses, c'est-à-dire que, alors moi, quand l'enquête est sortie, moi, j'avais utilisé un numéro de téléphone spécial pour faire mes infiltrations, pour aller dans les groupes Signal, les groupes WhatsApp, etc. Donc, mon numéro de téléphone a beaucoup circulé dans des groupes Signal ou WhatsApp antifascistes, dont un groupe qui s'appelle Antifa Antiraciste 20e, et qui est un groupe de l'Est parisien qui a été créé par des membres de la Marche des Solidarités, qui réunit des collectifs de sans-papiers d'extrême-gauche. Et ce groupe est destiné à dénoncer la présence de militants considérés comme fachos dans l'Est parisien. Donc si on voit des militants Reconquête, des militants du Rassemblement National, les personnes qui sont sur le groupe, elles le signalent. Et ensuite, l'information est relayée dans des groupes Antifa.
Qui fichent
et qui vont même peut-être intervenir. En tout cas, c'est le but, c'est que ces personnes-là aillent intervenir physiquement contre ces personnes. Et ils sont en train de s'organiser là pour les européennes, pour la campagne européenne, pour empêcher les militants RN ou Reconquête de tracter sur les marchés. Donc c'est quand même très inquiétant et c'est sûr qu'ils n'ont pas du tout une vision démocratique du tout, quoi.
Et justement, tu disais, parfois, leur discours victimisant, facile, en fait, à entendre, te laisse un peu porté par le vent, où tu te dis, ah, en fait, peut-être que... c'est pas... Tu sais, tu commences à te méfier des personnes dont ils se méfient et à remettre un peu en cause. Est-ce que toi, ça t'est arrivé, justement, dans tes infiltrations, de te dire, bon, c'est... ils sont pas si terribles, leur cause est juste, peut-être que je remets en cause les moyens, mais... C'est vrai que le discours, est-ce que tu as douté un petit peu, tu t'es dit, ils le font peut-être pas de la bonne manière, mais c'est des bons gars, ils sont sincères. Comment tu t'es retrouvé toi là-dedans? Est-ce que tu n'as pas une bipolarité sur le média dans lequel tu travailles et les idées que tu portes et ces personnes que tu as rencontrées?
Si, bien sûr, et en fait, c'est pour ça aussi, je pense qu'à un moment, j'avais besoin de couper pour vraiment écrire et pour retrouver un peu de tranquillité, parce que je pense que pour que ce soit même un peu réussi, il faut aussi se fondre dans le moule et il faut comprendre comment ces personnes pensent. Et après, je pense que ce qui m'a aidé, c'est de faire des recherches de mon côté pour garder un esprit critique. Mais comme je le disais, voilà, quand j'ai fait cette réunion le 5 mars, il y avait beaucoup de désinformation, il y avait beaucoup d'informations fausses sur ce groupe Nous Vivrons, où on disait que c'était un groupe violent. Et en fait, leur présence même était une agression. Et moi, j'avais presque l'impression que c'était un groupe dangereux. Alors que, bon, en fait, finalement, c'est les gens avec qui j'étais qui étaient dangereux. Mais bon, voilà. Et donc, oui, c'est sûr que c'est assez particulier. Après, je me suis réinformée par moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas le cas. Mais c'est vrai que ça peut toucher, franchement. Et j'imagine des personnes qui sont dans ce groupe où il y a presque un conditionnement mental. Quand je parle d'urgence palestine... Tout tourne autour du sionisme chez eux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, c'est sioniste, anti-sioniste. Et en fait, c'est soit t'es mon ami, soit t'es mon ennemi. Si tu vas manger chez Carrefour, t'es sioniste, sinon non. Et c'est très binaire et c'est très... Il y a un vrai embrigadement, en fait, avec cette notion qui revient en permanence. Et
le travail dans les universités aussi qui est fait,
exactement.
Des discours relayés parfois par les professeurs eux-mêmes.
Tout à fait, oui.
On se dit, en fait, c'est compliqué de penser autrement quand tout autour de soi te prône des discours.
C'est ça, il y a vraiment une analyse de tout à travers ce prisme-là. C'est-à-dire, si cette personne parle comme ça, c'est parce qu'elle est sioniste, c'est parce qu'elle est affiliée à Israël, etc. Et c'est assez perturbant parce qu'on comprend un peu mieux les arcanes de ce complotisme-là, parce que pour moi, c'est un complotisme qui fait vraiment penser au complot juif. En fait, le complot sionisme égale le complot juif. C'est les sionistes contrôlent le monde, ils contrôlent les médias, ils contrôlent la finance, ils tirent toutes les ficelles, et c'est assez spécial, oui.
Et t'avais quel rapport avec les personnes que t'as rencontrées? Est-ce qu'il y a vraiment des personnes que t'as trouvées vraiment sympas, hyper sincères, volontaires, des bonnes personnes? Ou est-ce que voilà, c'était un peu des pourris où tu sentais qu'ils jouaient sur les mots, qu'ils embrigadaient, qu'ils avaient conscience quand même de par exemple, tu parlais de ces migrants clandestins qui sont un peu instrumentalisés. Est-ce que tu penses que ces personnes avaient conscience de ce qu'elles faisaient, qu'elles savaient qu'elles les utilisaient à leur fin? Ou est-ce qu'elles pensaient vraiment bien faire? Enfin, comment t'as senti? Est-ce que t'avais fait de la pitié pour eux? Est-ce que t'avais un peu d'affection? Parce que j'imagine que ça a été très humain aussi. T'as rencontré des personnes qui étaient très certainement très agréables avec toi. Comment ça s'est passé? Comment t'as ressenti le truc?
Alors effectivement, c'est extrêmement variable. Il y a des personnes qui sont très sincères, qui sont très sympathiques aussi. Et il y a des personnes qui sont très cyniques et qui ont très bien conscience qu'il faut parler de cette façon pour manipuler les gens, etc. Et alors, à Utopia 56, par exemple, il y avait des bénévoles très, très sympas et des bénévoles qui étaient assez nouveaux, donc comme moi, et qui, eux, j'ai l'impression, avaient un peu une vision de compassion envers les clandestins et qui leur parlaient un peu même comme à des enfants qui voulaient aider, ouais. Qui étaient assez paternalistes, mais c'était quand même sincère dans leur démarche, quoi, parce que bah, ils avaient un peu une sorte de culpabilité en eux qu'ils voulaient exorciser en étant là. Et même dans les collectifs de sans-papiers, donc là, je pensais à Myriam, qui ensuite m'a emmenée à Urgence Palestine, qui était une militante assez sincère, mais en fait, elle avait des idées très radicales. Hein. Voilà, pour elle, le 7 octobre, c'était la résistance. Et puis, c'était pas gênant pour elle de faire des fichiers Excel où ils faisaient du pointage, parce qu'on en reparlera, mais il y avait un système de pointage des clandestins, où en fait, les clandestins, plus ils allaient dans les manifestations d'extrême-gauche, plus ils avaient de chances d'être aidés par les militants à être régularisés, à compléter leur dossier de régularisation. Donc là, c'était une vraie exploitation des clandestins. Mais pour eux, ça posait pas de problème. Hein. Pour les militants, sincèrement, ils se disaient que c'était un peu la meilleure façon de faire, parce que comme ils pouvaient pas aider tout le monde, il fallait quand même faire ce système-là. Et après, j'ai quand même essayé de garder des distances, même si je l'ai trouvé sympathique. C'est-à-dire que je suis pas non plus allée boire des verres avec elle. J'ai essayé de rester voilà, à ma juste place pour pas soutirer des informations, parce que j'ai essayé de rester à ma place de journaliste et d'observer les choses objectivement, sans manipuler qui que ce soit. Mais c'est vrai que c'était pas toujours évident de se retrouver avec des personnes qui nous accueillent, qui sont très sympas avec nous. Après, j'ai essayé de garder aussi les informations qui m'ont semblé d'intérêt général, parce que pour moi, c'est ça le journalisme, c'est des informations cruciales qui relèvent parfois de choses illégales ou de choses scandaleuses. Je les ai mises dans ce magazine. S'il y a des personnes qui m'ont confié des choses un peu personnelles spontanément, je l'ai pas répété. Et j'ai essayé de différencier ce qui était de l'ordre de l'information et ce qui était de l'ordre du privé, qui n'avait aucune valeur en termes d'information. Mais oui, c'est vrai que c'est pas simple non plus.
Et est-ce que t'as eu peur de cramer ta couverture pendant l'exercice? En plus, tu parles justement du fait que toutes les associations entre elles sont liées. Est-ce qu'ils n'ont pas trouvé ça louche que d'un coup tu fasses la première réunion publique de soulèvement de la terre et que le lendemain tu sois chez Urgence Palestine? Et deuxième question aussi, comment maintenant ça se passe? T'as accepté de témoigner à visage découvert avec ton prénom, ton nom, alors que ces personnes t'ont vu, t'ont reconnu, peut-être, enfin, t'avais peut-être un pseudonyme à ce moment-là, je sais pas d'ailleurs. Est-ce que t'as reçu déjà des menaces, des messages?
Alors, bah déjà, c'est vrai que sur le coup, j'avais peur, évidemment. Il faut savoir que Utopia 56, je l'avais fait l'année dernière, et l'article était sorti dans le premier numéro de Livre Noir. Et donc, il y avait quand même des bénévoles qui connaissaient mon visage et qui connaissaient mon nom. Il y en a même qui m'avaient cherché sur LinkedIn. Et donc là, je suis retournée quand même dans des collectifs immigrationnistes qui étaient très liés forcément à Utopia 56, pardon. Et donc je me disais, bah, à tout moment déjà, je peux croiser quelqu'un que j'avais croisé à ouais. Utopia 56. Donc à chaque fois que j'allais dans une nouvelle réunion où je connaissais pas forcément tout le monde, bah forcément j'avais un peu une peur au ventre, hein, où je me disais.
Et tu y allais toute seule ou ouais, tu demandais à des amis de t'attendre au cas où? Non,
ah non, pour le coup on m'attendait, on me suivait, on savait, mes collègues qui m'accompagnaient ouais. justement savaient toujours où j'étais et je les tenais au courant, donc sur ça il n'y avait pas de problème, mais sur le terrain même ouais. j'allais toute seule, donc c'est vrai que ça a un côté parfois inquiétant. Et notamment Urgence Palestine, sur lequel je reviens, parce que donc après l'épisode des violences, ils ont eu peur d'être infiltrés parce ouais. qu'il y a une capture d'écran d'une de leurs conversations de Telegram qui avait fuité sur X. Et donc je me retrouve à deux réunions par la suite, une réunion locale, une réunion nationale. Et réunion locale, il y a un peu la chef de la réunion qui commence à dire Bon, on est certainement infiltrés, donc faites attention, regardez autour de vous. Et là, il y a tout le monde qui commence à se regarder dans la réunion. Et là, j'avais l'impression d'être toute rouge, que tout le monde me voyait. Je savais pas comment me positionner et tout. Et ensuite, il y a eu une autre réunion nationale. Et alors là, c'est au CICP, donc Centre International de Culture Populaire. Et en fait, c'est un bâtiment avec un digicode, avec un sas, et avec on était dans une salle où il y avait aussi un code. Et on était une soixantaine, 70, et là, je me disais... et en plus, ils avaient peur d'être infiltrés, donc ils faisaient attention à tout le monde. Et je me disais, voilà, si là, on me repère, qu'est-ce que je fais? Enfin, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, c'est sûr qu'il y avait des moments stressants. Après, au fil du temps, en fait, au fil de l'infiltration, on apprend un peu à devenir moins paranoïaque parce que c'est toujours un peu plus impressionnant au début. Puis, il y a une sorte d'accoutumance à la fin, ça devient presque naturel.
Et puis, t'intègres le discours, c'est tu ça. Sais aussi... voilà, tu sais,
ça devient, c'est ça, ça devient naturel et on se dit qu'il n'y a absolument aucune chance que je sois suspectée. Et même si je le suis, bah, je réagis comme une personne qui est innocente, enfin, qui est innocente, voilà, qui n'a pas trop d'idées derrière la tête. Et en fait, c'est pas... enfin... on apprend à gérer le stress, mais c'est vrai que c'est parfois assez, assez difficile. Ouais.
Et donc après, après la sortie du numéro, comment ça se passe?
Bah, en fait, donc, j'avais, heureusement, et je pense que c'est la base, j'utilisais un deuxième numéro de téléphone, parce qu'il ne faut pas tout mélanger, et ça me permettait de switcher. Et donc, sur ce numéro de téléphone, j'ai reçu énormément d'appels, parce que mon numéro a tourné sur des groupes comme je te le disais, donc j'ai reçu énormément d'appels et j'ai reçu des messages de menaces sur mon répondeur.
Aujourd'hui à 15h41,
toi quand on va te retrouver, on va te mettre bien dans la merde, bien sang, grosse folle. Attends qu'on te retrouve, t'es en train de tourner en ce moment dans les boucles de signal. Attends qu'on te retrouve.
Mais après j'ai reçu aussi énormément de messages de soutien et ça je m'attendais pas à avoir autant. Et d'ailleurs, je suis très reconnaissante d'avoir autant de messages d'encouragement et de soutien parce que pour le coup, je ne m'y attendais pas. Donc, ça m'a fait du bien.
Donc, tu t'es posé la question d'apparaître à visage découvert parce que j'imagine que le numéro est sorti. Et là, c'était bon, bah, est-ce qu'on te met un pseudo et tu continueras? Parce que c'est ça aussi la question sous-jacente. C'est là, tu es un peu cramé pour faire d'autres enquêtes du genre. Est-ce que, voilà, quelle a été ta réflexion là-dessus? Est-ce que tu te dis, bah, ça m'a suffi 6 mois et. Je laisse la place à d'autres.
Oui, on verra bien. Alors après, oui, je pense que ça, 6 mois, ça m'a aussi suffi. Et je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire. Et que je pense qu'il y a encore énormément de choses à découvrir. Hein, quand on va sur le terrain, quand on va voir ce qui se passe, c'est assez édifiant ce qu'on découvre. Voilà, après, dans tous les cas, même si je n'avais pas porté le magazine, j'étais tellement partout dans ces groupes qu'on aurait su que c'était moi. Il n'y avait pas de chance qu'on soupçonne quelqu'un d'autre, quoi, parce que j'étais un peu le lien, mine de rien, à la fin, entre tous ces groupes. Donc j'aurais finalement été cramée, quoi, donc je me suis dit qu'autant autant le porter, autant en parler, parce que c'est mon vécu aussi, donc je pense que je suis la personne qui peut le mieux en parler, parce que ce magazine, c'est aussi un magazine qui est écrit à la première personne. Enfin, les enquêtes sont écrites à la première personne, pas tout le magazine. Mais c'est aussi, en fait, une manière d'emmener les lecteurs. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est d'emmener les lecteurs avec moi dans une aventure, dans une exploration de tous ces groupes pour voir avec mes yeux comment ça se passe, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on voit, quels sont les rapports entre les gens. Et ça, j'avais envie d'emmener les lecteurs avec moi, d'être une sorte de témoin de ce qui se passe. Et donc, c'était un peu le parti pris de ce magazine. Mais c'est vrai que ça n'a pas été tout de suite une évidence de montrer. Hein. J'ai eu peur, hein, comme tout le monde aurait eu peur à ma place. Et j'ai réfléchi. Et voilà. Mais après, on a d'autres projets avec Livre Noir pour la suite.
Est-ce que tu as des regrets sur ton enquête de peut-être pas avoir poussé sur tel ou tel point, de pas avoir, je sais pas, t'es resté quelques temps dans une ZAD? Est-ce que tu t'es dit, j'aurais peut-être dû rester plus longtemps pour vraiment voir, enfin voilà, ou j'imagine que ça devait pas forcément être agréable, mais voilà, est-ce qu'il y a 2-3 trucs où tu te dis, ça c'est vrai que j'aurais pu plus titiller là-dessus parce qu'il y a un vrai sujet et je pouvais pas tout faire en 6 mois évidemment, mais voilà, est-ce que t'as quelques...
Bah, c'est sûr que je pouvais pas tout faire en 6 mois et en fait mes semaines elles étaient pleines toutes les semaines, tous les soirs, j'avais des choses et puis il y avait toujours des choses qui tombaient en même temps, donc c'était hyper frustrant, 2 réunions qui tombent en même temps, enfin en fait c'est tellement excitant de se dire à chaque réunion je vais apprendre ci, je vais apprendre ça, qu'est-ce qui va se passer, c'est presque un feuilleton hein, quand il y avait tous ces épisodes du 8 mars, quand il y avait les soulèvements de la terre avec les agriculteurs, avec Urgence Palestine, enfin... C'était un véritable feuilleton, même la ZAD, et j'y suis allée d'ailleurs 2 fois, donc je crois à 2 semaines d'intervalle. Et même la ZAD, ça avait énormément évolué. Alors la première fois que j'y suis allée, Il y avait, je crois, 3 cabanes dans les arbres. La deuxième fois, il y avait 5 cabanes. C'était, il y avait des personnes qui étaient encore là, mais il y en a d'autres qui étaient nouvelles. Il y avait eu des histoires. Enfin, c'était un vrai feuilleton. Donc c'est vrai que forcément, moi, j'aurais pu continuer longtemps. En même temps, c'est épuisant. Donc, je pense qu'il faut faire aussi attention dans ce genre de situation parce que c'est stressant, c'est éreintant et puis c'est perturbant en fait de se retrouver confronté à des idéologies assez extrêmes toute la journée et d'être dans une espèce de dissociation tout le temps. Donc je pense que c'était aussi le bon moment pour couper et je regrette pas parce que je pense que ce magazine, il y a quand même de la matière dedans. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'informations, mais je pense que c'est un travail qui peut être continué par d'autres personnes.